1, disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Ça n'a pas l'air super jojo comme sujet ce matin, mais on va parler de tout ce qui touche séparation, divorce, médiation potentiellement, pension alimentaire, garde partagée, toutes ces bébelles-là, on remarque...
Hey, t'amènes le soleil à matin!
C'est drôle parce que j'ai regardé mon calendrier cette semaine au niveau des sujets... J'ai pas choisi les meilleurs sujets pour une semaine aussi ensoleillée que ça, mettons. Là.
Mais, tu sais, à la base, on s'entend, c'est pas des sujets qui sont super joyeux, mais quand t'en arrives là...
C'est nécessaire.
Ben, pis, un, c'est nécessaire, mais t'essayes aussi que ça se passe. Tu sais, ça peut bien se passer, une séparation puis un divorce. C'est pas l'activité qui est la plus fun, là.
Non, mais inévitablement, c'est sûr qu'il y a des bouts un peu plus tough où t'as envie de t'arracher à la tête, j'imagine. Tu sais, que ce soit par rapport... Il y a un désaccord qui arrive à un moment donné ou à un autre, tu sais. Que ce soit dans la vente de tes biens, que ce soit par rapport aux enfants, si t'en as. Puis ça, c'est un autre pan que j'ai envie qu'on explore. Depuis le 30 juin 2025, il y a la loi sur la réforme du droit de la famille au Québec, le projet de loi 56, qui fait en sorte que ben, tu deviens un patrimoine familial, si on veut. Fait que pas besoin de te marier, il suffit juste d'avoir des enfants aujourd'hui, fait que choisis ta personne. Comment ça vient entrer là-dedans aussi. T'sais, si t'es pas marié, mais tu te sépares, t'as des enfants, t'as-tu besoin de consulter un avocat? Il y a toutes ces questions-là. Puis je lis beaucoup de textos qui entrent ce temps-ci, chaque fois qu'on parle de couple ou de séparation ou de finances, qui disent « Hey, moi, on est dans une situation où on n'ose pas se séparer parce que ça coûte énormément de sous. On ne sait pas comment on va surloger chacun de notre bord puis donner le maximum de ce qu'on peut donner à nos enfants. On n'a pas les sous pour faire affaire non plus avec des avocats. On ne sait pas comment gérer ça. » Fait qu'on s'est dit qu'on allait attaquer le sujet de front tout simplement. Puis dans ce temps-là, ben, il faut un professionnel parce que nous autres, on ne l'est pas pantoute. Donc, on fait affaire ce matin avec Maître Gabrielle Martineau des Hôtels, qui est avocate en droit familial. Ça fait plus de 10 ans qu'elle concentre vraiment sa pratique principalement en droit de la famille, en protection de la jeunesse aussi. Comme je vous dis, si vous avez des questions, 88-971-1021, texte. Vous ne vous gênez pas, peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Mais Maître Martineau des Hôtels, j'ai envie de vous demander pour commencer, par où on commence quand on désire mettre fin à une relation qui implique justement une famille, un divorce, un mariage, tout ça, là?
Bien, je vous dirais, pour commencer, consulter un avocat, c'est toujours une bonne idée pour être au courant de ses droits, savoir qu'est-ce qui s'en vient, ce à quoi on a droit, ce à quoi les enfants ont droit, ce à quoi notre ex-conjoint a droit aussi. Donc, c'est toujours un bon point de départ.
Question de mettre les bonnes balises, mettons, là.
Exactement.
Puis mettons qu'on se donne une situation simple. On n'est pas marié, on a eu des enfants après le 30 juin 2025, puis crimbine la vie, on se sépare. Est-ce qu'on doit faire affaire avec un avocat dans un cas comme celui-là, étant donné justement que ça a changé au niveau de la loi 56?
C'est sûr que c'est toujours mieux de faire affaire avec un avocat. Là. Avec la nouvelle loi, là aussi, il y a une obligation là, de considérer les modes alternatifs de règlement, là, comme par exemple la médiation. Donc, avant de soumettre le dossier à un juge, là, il faut participer à des séances de médiation, sauf dans certains cas, par exemple, quand il y a de la violence conjugale, là, où on est exclu là, de la médiation. Mais c'est ça, on commence toujours un peu par là.
C'est quoi les points les plus fréquents de forts désaccords au moment d'un divorce? Qu'est-ce qui vient causer du trouble souvent puis qui devient de la bonne job pour un avocat?
Le volet financier, là, je vous dirais que c'est toujours pas mal un point qui est contesté soit par un, soit par l'autre, là, que ce soit partage des biens, que ce soit pension alimentaire pour enfants ou pour ex-conjoint. C'est toujours pas mal ça, le nerf de la guerre. Là.
C'est sûr que ça doit être quelque chose d'excessivement difficile à gérer. Tantôt, on a glissé le mot sur le médiateur. Ça a l'air niaiseux comme question. Le mot médiateur, j'imagine que c'est pour aider à ce que le monde se pogne pas quand c'est... Du moins, c'est ce qu'on voit dans les films. Là. On dirait que c'est la personne qui est entre les deux pour essayer d'éviter la chicane. Est-ce que c'est quelque chose que vous offrez en cabinet ou un médiateur, ça n'a rien à voir avec un avocat? Comment ça marche?
Oui. Nous, d'ailleurs, ben moi, je suis en train de finir ma formation pour être médiatrice. Là, fait que je suis là-dedans. En ce moment, là, c'est super intéressant. Puis oui, il y a des avocats qui peuvent être médiateurs, des travailleurs sociaux, des ergots, non pas des ergothérapeutes, des psychoéducateurs, excusez-moi. Donc, il y a différents ordres professionnels, là, psychologues, qui peuvent être médiateurs familiaux, puis avec qui ça peut être super intéressant.
Mais ça prend une formation.
Ça prend une formation, okay. Là. Ça prend une formation.
C'est pas le voisin, mettons, avec qui tu t'entends bien, qui va venir alléger la conversation, mettons.
Non, c'est ça. Parce que ça prend notamment une formation sur tous les aspects juridiques, là. Donc, nous, on aborde aussi le volet psychosocial, mais tout ce qui est séparation de biens, calcul de pension alimentaire, tout ça, là, les médiateurs doivent être formés aussi.
Puis, est-ce que ça vient d'emblée, du genre, on vous conseille de consulter un médiateur, puis un coup que ça, c'est fait, on fait le cheminement avec un avocat?
Mais c'est sûr que c'est toujours suggéré de commencer par la médiation, parce que on dit toujours que la pire des ententes vaut mieux que le meilleur des jugements. Mm. Donc, c'est toujours mieux de faire son jugement soi-même. Donc, on s'assoit, on discute, puis on s'entend sur les points qu'on a en désaccord, puis on trouve une solution, que de se faire imposer quelque chose par un juge qui entend la preuve qui est soumise devant lui là, lors d'un procès, par exemple.
C'est vraiment une drôle de question, mais j'ai déjà entendu des gens dans les dernières semaines, les derniers mois, qui disaient « Ah, ben moi, je suis séparée depuis, mettons, 2-3 ans, mais on n'est pas officiellement divorcé parce que ça coûte trop cher, on veut pas se lancer là-dedans, on sait pas comment gérer ça pour l'instant. » On dirait qu'on se fait souvent une image du divorce où il y a du conflit, le procès, les longs délais, les frais professionnels super élevés. Y a-t-il une possibilité de divorcer à l'amiable, je veux dire ça comme ça, mais
oui,
de faire ça moins compliqué.
Ben oui, tout à fait. Là, nous, on fait souvent des divorces à l'amiable aussi, que ce soit après une médiation ou juste deux époux qui se présentent et qui disent « Ben nous, on s'entend sur tout, on veut rien partager, on garde chacun nos choses. Donc, on fait un divorce à l'amiable, c'est moins compliqué, moins coûteux, plus rapide. Mais ça se peut, là, ça se fait souvent. »
Ah oui, c'est ça, je me demandais.
Oui, il y en a plus qu'on pense. Qui, mm-hmm. On ouvre un peu le sujet de même en disant c'est jamais le fun, là, on s'entend, mais mettons que t'as en arrivé là, Colin, t'es bien mieux de le faire pour que les deux sortent, entre guillemets, satisfaits, puis ça vient enlever une méchante lourdeur. Là.
Ben oui, définitivement, parce que t'sais, psychologiquement, des procédures judiciaires, c'est très lourd, ça nous suit pendant des années, là, fait que c'est sûr que le plus vite on règle un dossier, ben même si on laisse certaines considérations financières derrière nous puis qu'on fait certaines concessions, mais tout le poids des procédures judiciaires, ça...
C'est lourd.
Exactement, là.
Comment on détermine qui va avoir la garde des enfants? Tu sais, mettons, moi, je m'entends relativement bien avec le père des enfants, puis on se sépare, puis c'est sûr, ça amène des conflits aussi, j'imagine, inévitablement, mais y a-t-il une façon de procéder ou de fonctionner? Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est ce qui empêche aussi des gens de se laisser, de laisser aller un peu la famille puis de se rebâtir dans le bonheur. Là. On dirait qu'ils préfèrent endurer la misère pour éviter tout ça. Fait que comment on détermine? C'est quoi le processus?
Mais ça va dépendre un peu si le dossier passe devant un juge ou si on essaie de s'entendre à l'amiable. Si on s'entend à l'amiable, de toute façon, dans tous les cas, c'est l'intérêt de l'enfant qui demeure au cœur de la décision. Fait qu'il faut regarder c'est quoi qui est dans le meilleur intérêt des enfants, c'est quoi leurs besoins aux enfants, voir est-ce que c'est d'être en garde partagée, est-ce que c'est d'être plus chez un parent, plus chez l'autre. Donc, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui va guider dans la décision. C'est pas automatiquement la garde partagée non plus. Là. Ça, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir cette perception-là que c'est automatiquement la garde partagée. Mais pas nécessairement.
Est-ce qu'on part avec le principe que ça devrait être ça, puis après ça, c'est plus des exceptions si c'est pas ça?
Mais c'est sûr que ça devrait être dans le meilleur intérêt des enfants de voir ces deux parents autant l'un que l'autre. Donc, c'est sûr qu'on peut partir de ce principe-là, mais c'est pas automatique. Si on arrive à démontrer ou à dire, ben non, ça serait mieux que les enfants soient avec un parent plus qu'un autre, ben à ce moment-là, c'est vers là qu'on va aller. Il faut vraiment prendre en considération l'intérêt de l'enfant puis où est-ce qu'ils vont être le mieux.
Puis comment ça a changé, mettons, avec la loi 56? Parce que j'imagine que, puis encore une fois, je ne m'y connais pas pantoute, mais j'imagine que ce qui fait partie des choses que, mettons, moi puis Max, on est ensemble, ce qui fait partie des choses que Max, mettons, aurait les enfants à ma place, j'imagine que c'est si... je sais pas, moi, il garde la maison, la stabilité, les chambres toutes restent intactes, puis moi, je me ramasse dans un appartement miteux. J'imagine que c'est sûr que c'est préférable que les enfants restent un peu plus dans leur milieu que dans mon appartement miteux. Mais là, tu sais, dans un contexte où on crée un patrimoine familial, puis ça se retrouve à être 50-50 pour que l'enfant soit bien d'un côté comme de l'autre, ça change-tu de quoi quand on parle de garde des enfants?
Bien, je vous dirais qu'avec l'union parentale, on n'a pas encore eu de cas d'union parentale, ou en tout cas, c'est...
C'est une bonne chose.
Oui, bien, c'est sûr que c'est en vigueur depuis juste juin l'année dernière, là. Donc, le temps que les gens se séparent après avoir fait des enfants, on n'a pas encore beaucoup de cas. Fait qu'on n'a pas mis en application beaucoup ce nouveau patrimoine-là. Donc, ça va venir, là. On s'en attend. C'est sûr que ça va changer un petit peu la donne parce que comme on sépare un patrimoine, bien, il va y avoir une séparation au niveau des actifs financiers qui va être plus égale, si on veut, que des conjoints de fait avant cette union-là. Là.
Comment ça fonctionne, ça, déjà? C'est vraiment 50-50 sur tout ce que tu possèdes? Ou?
En fait, c'est 50-50 sur certains biens, la résidence familiale, les meubles, puis les véhicules automobiles qui ont servi pour l'usage de la famille.
Fait que tu sais, si moi, mettons, j'ai des REER puis des affaires dans mon compte, l'autre, il n'y a pas accès, là.
Non, c'est ça. À moins qu'il y ait une entente par laquelle on dit, OK, ben on va partager 50-50, mais à la base, il n'y a pas de REER, il n'y a pas de fonds de pension. Ça, c'est vraiment exclusivement réservé aux gens qui sont mariés.
Puis si, mettons, la maison est à max, puis on se sépare, ça va quand même aller 50-50?
Oui, on va faire une évaluation, là. En fait, la maison va être évaluée à la date de la naissance de l'enfant, puis à la date de la séparation, puis la valeur accumulée entre ces deux dates-là, bien, ça va être séparé 50-50.
Okay, la c'est, valeur pas la, nette. C'est ça, c'est pas la maison qui... C'est la valeur que ça a pris entre le moment de la naissance et le moment de la séparation.
C'est ça. C'est pas comme un droit de propriété. C'est vraiment, on partage la valeur. On n'a pas le droit de propriété.
OK, c'est clair, je comprends. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont peur de perdre financièrement ou émotionnellement dans une séparation? Parce que j'imagine que ça vaut pour beaucoup des fois, là.
Oui, bien, c'est sûr que on perd toujours. On perd toujours, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement. On ne voit plus nos enfants aussi souvent que si on reste avec l'autre personne. Nos moyens financiers, ben, sont divisés à deux. C'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation. C'est sûr que moi, je recommande souvent aussi à mes clients d'aller chercher de l'aide aussi. D'aller consulter un travailleur social ou quelqu'un qui peut les aider aussi, qui a des outils, parce que il y en a beaucoup qui... Nous, on a beaucoup, en tant qu'avocat en droit de la famille, là, on a le chapeau médiateur, on a le chapeau travailleur social, psychologue, mais on n'est pas nécessairement outillé. Fait qu'on essaie de référer aussi vers les bonnes ressources, là, nos clients, pour qu'ils soient bien accompagnés là-dedans. Là.
Puis des gens qui paniquent en se disant, mettons, qu'ils n'ont pas les sous. Tu sais, souvent, c'est ça, ben oui, mais là, je vais me rentrer là-dedans puis je vais me ruiner, là.
Pas nécessairement. C'est sûr qu'il y a des coûts qui viennent avec des procédures judiciaires, mais c'est certain qu'à un moment donné, il y a d'autres options. Il y a de plus en plus de gens qui se représentent seuls aussi, qui peuvent être accompagnés par en arrière par un avocat pour s'assurer, par exemple, que leur dossier est bien monté, leurs preuves, tout est bien fait. Donc, ils nous consultent ponctuellement pour avoir des conseils ici et là, mais ils vont se représenter tout seuls à la cour. Ça, okay. C'est une option aussi.
Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des couples mariés qui décident de se séparer, mais restent mariés, mettons, sur papier pendant une couple d'années, puis qu'à un moment donné, bien là, on décide de divorcer? C'est-tu des cas qui sont un peu plus complexes quand ils n'étaient plus ensemble depuis une couple d'années, mais là, le divorce finit par arriver parce que là, ça ne marche plus, puis on veut vraiment couper un peu le pont?
Oui, c'est sûr que ça l'arrive. Il y en a, là, des fois, qui viennent nous voir des années plus tard. Là. On en a eu déjà au bureau, là, 10-15 ans plus tard. Là. C'est sûr que ça l'amène une petite complexité de plus, mais en même temps, on regarde la situation, puis après ça, on va suggérer aux parties c'est quoi qui est le mieux. Est-ce qu'on fait remonter les effets de la séparation à leur date réelle de séparation? Est-ce qu'on sépare en date d'aujourd'hui? Fait que là, rendu là, c'est des calculs à faire, puis c'est de l'évaluation aussi, puis de la stratégie avec nos clients.
Il y a une partie de moi qui trouve ça quasiment plus... sain, parce qu'on dirait que les émotions sont plus là-dedans. Tu sais, ça devient technique, en fait. Là. On s'aime plus, on n'est plus ensemble depuis des années. Tout ce qui nous reste à régler, c'est les papiers. On dirait, je sais pas, il me semble... En tout cas, personnellement, je serais peut-être plus apte à régler ça avec un recul que dans un...
Ben, probablement que pour n'importe qui, c'est mieux quand les... que les émotions sont un peu plus loin derrière. En fait, gérer n'importe quoi qui touche de l'argent avec des émotions, souvent... peut-être pas meilleure idée.
Non, t'as raison. Maître Martineau des Hôtels, je terminerai en demandant pour les gens, mettons, qui sont passés à travers ce processus-là, comment on maintient une communication saine avec son ex-conjoint, conjointe, quand les émotions sont encore, veux, veux pas, très fortes, quand il y a les enfants impliqués. Vous disiez tantôt que vous faisiez votre cours là, en médiation. J'imagine que ça fait partie des choses que vous voyez, mais c'est quoi les petits trucs, là?
Bien, c'est sûr que garder en tête là, l'ouverture d'esprit, dire qu'il faut collaborer. On est là, puis on a fait un enfant ensemble, puis il faut s'occuper de cet enfant-là, puis l'amener à devenir une bonne personne, il faut s'entraider, il faut rester ouvert d'esprit. Puis si on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Mmh. On a des super bons intervenants sociaux qui font de l'accompagnement, justement, coaching parental, des choses comme ça qui aident les parties à mieux les parents à mieux communiquer entre elles. Puis vraiment, là, ça fait des miracles. Là. Ça l'aide parce que ça, c'est un bout qui est difficile. Quand on est campé sur nos positions là, puis qu'on a encore de la rancœur là, envers l'autre parent, là, ça devient difficile.
Maître Gabrielle Martineau, Desautels, avocate en droit de la famille chez Mast Avocat. Un gros merci pour votre temps ce matin.
Ça me fait plaisir.
Et Audrey, ben là, on se met en mode attente. Et là, soyez là à 14h. Est-ce qu'Audrey Pinchot sera là dans le retour? Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce sera Mathias Turcotte? Est-ce que ce sera Nathan Meilleur? Gab Marino? Ce sera un sac à surprise à 14h. Je fais des farces. J'espère que tu seras en mesure d'être là. Puis que sinon, ben, tu te reposeras bien. Puis qu'on va te retrouver en pleine capacité sous peu. Merci beaucoup, Audrey.
Salut, Max.
À tantôt, on espère. OK, 11h21. Au retour, les nouvelles avec Ariane. Et on va jaser de sport également. Et Pascal Cévé va venir faire son tour.
L'Open Mic avec Audrey Pinchot.